Vous écoutez
RMC.
Il est presque 8h sur RMC, soyez tous les bienvenus, bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dallas et son univers impitoyable, plus que jamais ce matin, puisque c'est là-bas que se jouera ce soir la demi-finale du mondial entre la France et l'Espagne. La bête noire des Bleus, eux répètent qu'ils n'ont pas peur des Français. On y sera en direct dès le début du journal. Nous serons également en forêt de Fontainebleau avec les toutes dernières informations sur le feu qui progresse encore ce matin, quasiment 2000 hectares parcourus. Et nous serons à Nice au matin des commémorations des 10 ans de l'attentat de la promenade des Anglais.
8h et nous y sommes ce matin dans le dernier carré.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et c'est une longue journée d'attente qui commence encore une fois jusqu'à la demi-finale ce soir entre la France et l'Espagne. Le coup d'envoi à 21h à Dallas où se trouve déjà Jean-Louis Tour qui commentera le match ce soir pour RMC. Jean-Louis, on retrouve encore une fois l'Espagne contre qui la France, on a beaucoup de mal.
Oui, surtout ces derniers temps. On reste sur deux défaites à chaque fois en demi-finale. D'abord de l'Euro, puis de la Ligue des Nations. Alors c'est suffisant pour donner une grande confiance à la star espagnole, Lamine Yamal.
Après notre qualification en demi, on m'a demandé si j'avais peur de la France. J'ai dit que non, évidemment. On est champion d'Europe et on n'a jamais peur.
Mais les Français ont des arguments à opposer, fort de leur parcours quasi parfait, avec la meilleure attaque de la Coupe du Monde, la deuxième meilleure attaque de la Coupe du Monde, et aucun but encaissé sur les matchs à élimination directe, le milieu de terrain Adrien Rabiot.
Déjà, ça reste du football, on craint personne évidemment, et on arrive sur une demi-finale dans les meilleures conditions possibles, mais en tous les cas, on a mis tous les joueurs de notre côté pour arriver dans les meilleures conditions.
Voilà, la suite du parcours, c'est donc cette demi-finale. Alors même si la France commence à être habituée à ce stade de la Coupe du Monde, ce sera la 8e de l'histoire. Un tel rendez-vous n'est jamais anodin. Et pour l'événement, les Bleus pourront compter sur quasiment toutes leurs armes. Tchouaméni, revenu de blessure. Mbappé, qui sera à 100% des chances et voulu rassurant hier, après que le meilleur buteur français ait écourté sa séance d'entraînement hier soir à Dallas.
Jean-Louis Tour, en direct des États-Unis ce matin, on vous dit à ce soir, Jean-Louis, 21h pour le coup d'envoi de ce match que vous allez commenter évidemment en intégralité sur RMC. Alors tiens, question, qui est favori ce soir? Écoutez le sélectionneur Didier Deschamps qui visiblement a fait LV2 espagnol.
Espagne a confirmado de ser el favorito.
L'Espagne favorite selon Didier Deschamps. Et voilà ce qu'on en pense tiens, de cette demi-finale ici à Bordeaux avec notre correspondant RMC Pierre Borges. Ou comme ailleurs en France, il y a de plus en plus de monde devant le match des Bleus et ça va se ruer en ce soir en terrasse pour voir la demi-finale.
Au petit jeu des pronostics, Anas et son oncle Lies parient sur une large victoire de la France.
2-1 ou 3-1 ou je pense 4-1.
Bah, je pense que la France va choquer l'Espagne, je vais dire 3-1 ou 3-0.
Il faut dire que les Bleus ont conquis le cœur de ces deux supporters.
Bah moi, je te trouve incroyable. Le niveau de jeu, franchement, parfait. C'est tout ce qu'on demandait à Deschamps. Quand on les voit, franchement, ça nous donne envie de les supporter à fond, quoi. C'est magnifique à voir.
Pour Emma, qui suit un peu moins le foot, c'est la bonne humeur contagieuse des Bleus qui l'a séduite.
On sent que l'équipe, elle est soudée et qu'ils s'entendent tous bien. Donc, ça donne quand même envie de les supporter, les Bleus. Hein.
Même constat pour ces Bordelais qui remarquent l'influence des footballeurs sur l'humeur des supporters français.
Je trouve ça fabuleux, franchement. En fait, je trouve que c'est très souvent à ce moment-là où il y a du coup des matchs où on est très souvent très soudés et tous de très de bonne humeur.
De plus en plus, les Français s'identifient à cette équipe, vu qu'elle est beaucoup cosmopolite. C'est encore plus plaisant.
En tout cas, tout le monde s'attend à ce que les Bleus décrochent ce soir leur ticket pour la finale.
Allez les Bleus, allez, les Bleus, allez, on est ensemble.
Allez les Bleus, 21h ce soir sur RMC. Vous ne raterez rien, évidemment, à l'écoute de la radio officielle. Et c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément la tête à ça. On pense évidemment ce matin aux pompiers, aux sinistrés du feu qui continue de progresser dans la forêt de Fontainebleau. Les flammes qui ont parcouru 1900 hectares hein, depuis dimanche, selon le tout dernier bilan des 850 pompiers toujours mobilisés ce matin, aidés par 4 canadaires qui écopent depuis hier dans la Seine. Les images sont impressionnantes. Rachel Sadodine, on vous retrouve en direct pour RMC depuis Achères-la-Forêt, une des communes en lisière de ce feu, où les pompiers font tout ce qu'ils peuvent hein, pour arrêter la progression des flammes.
Oui, mais le vent continue de souffler ce matin aux abords de la forêt de Fontainebleau et ça ne facilite pas la tâche des pompiers. Autre difficulté, les soldats du feu peinent à atteindre l'incendie, terrain difficilement accessible à cause du dénivelé. Ils espèrent donc pouvoir déployer aujourd'hui des bulldozers de l'armée pour faciliter les choses. Et pendant ce temps-là, les près de 1000 évacués ne peuvent toujours pas regagner leur domicile. Plusieurs dizaines viennent de passer leur deuxième nuit ici à la salle des fêtes d'Achères-la-Forêt. Certains dorment encore, d'autres prennent un café coiffé, large cerne sous les yeux, visage fermé. Ces riverains ne souhaitent pas s'exprimer au micro ce matin, épuisés. Inquiets aussi de l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison. Ceux qui ont encore un toit viennent leur apporter le petit déjeuner comme Christine. Elle est arrivée avec des pains au chocolat. La sexagénaire a toujours vécu à HR et elle a le cœur lourd.
Nous sommes une vieille famille de HR. On n'a jamais vu ça, c'est horrible pour notre forêt et puis pour nos habitants.
Là, on voit encore la fumée sous nos yeux.
Oui, c'est comme ça depuis deux jours. Moi, de chez moi, je voyais les flammes. Ça a été très impressionnant. Les nuits sont courtes. C'est vrai que c'est difficile. Ça me fait mal au cœur. Ouais. Ce ne sera plus jamais la forêt de Fontainebleau. Ça brûle partout, là.
Les pompiers annoncent ce matin d'importants moyens mobilisés en lisière de forêt, notamment avec un objectif, fixer le feu dans la journée, grâce aussi à l'aide de quatre canadairs et un avion bombardier d'eau.
Et donc l'image impressionnante de ce panache de fumée toujours ce matin au-dessus de cette forêt de Fontainebleau à même pas 60 kilomètres au sud-est de Paris. Alors dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé une soixantaine d'interpellations partout en France là pour tous les départs de feu. Deux pour ceux là autour de Fontainebleau, notamment un jeune de 18 ans était en possession d'un briquet et les mains recouvertes de suie au moment de son interpellation. Alors c'est à cause des risques d'incendie que de nombreuses villes ont décidé d'annuler leur feu d'artifice du 14 juillet. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est passé hier soir à Lourdes. On a frôlé la catastrophe. Le feu d'artifice a déclenché un incendie, heureusement, qui a été maîtrisé au pied du château.
C'était un double 14 juillet qui commence pour Emmanuel Macron.
Oui, le président est ce matin à Paris pour son tout dernier défilé sur les Champs-Élysées en tant que président. Il entend marquer le coup puisque ce sera le plus massif de ces deux quinquennats, nous dit l'Élysée. L'Ukraine à l'honneur, 6700 troupes à pied pour symboliser le réarmement de la France. La nouveauté, ce sont les QR codes obligatoires pour le public pour accéder aux champs là ce matin. Alors, ils ont été annulés hier en fin de journée par la justice administrative avant d'être rétabli durant la nuit par le Conseil d'État. Et alors ce soir, Emmanuel Macron sera à Nice pour le point d'orgue des commémorations de l'attentat de la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts il y a 10 ans. On se souvient tous de cette terrible image de ce terroriste qui fonce dans la foule à bord d'un camion. Romain Houx, ce matin pour RMC, vous nous dites que c'est une longue soirée d'émotions qui attend les Niçois.
Oui, avec une cérémonie qui doit débuter à 18h, place Masséna, où Emmanuel Macron sera aux côtés de ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy pour des commémorations qui doivent débuter par la projection d'une vidéo hommage aux victimes, avant que 43 enfants et 43 des premiers secouristes et forces de l'ordre intervenus viennent déposer un rameau d'olivier sur 86 chaises vides, représentant les 86 victimes de cet attentat. La plus jeune avait à peine 2 ans, la plus âgée 79, près de la moitié était étranger. C'est la première fois depuis 2017 qu'Emmanuel Macron assiste à la cérémonie. À l'époque, il avait commémoré le premier anniversaire de cet attentat de la promenade des Anglais. Sa présence compte pour Stéphane Herbst, victime et coprésident de l'association Promenade des Anges, mais ça ne suffit pas à effacer toute amertume. Écoutez, il était invité d'RMC ce matin.
C'est un pas important. Moi, je l'avais rencontré le 11 mars lors de la journée nationale et il m'avait garanti qu'il venait pour les commémorations. Mais bon, les victimes de l'attentat et l'attentat dans sa globalité sont complètement oubliées. Depuis 8 ans, il y a eu un réel désintérêt de toutes les commémorations et au-delà des commémorations, de tous les combats qu'on porte.
Et à 8000 km de là, avant le coup d'envoi de France-Espagne, 21h ce soir à Dallas, une minute de silence sera observée par le stade et les joueurs. La journée d'hommage terminera à 22h34, heure à laquelle le camion s'est arrêté. 86 faisceaux bleus seront alors braqués en direction du ciel niçois.
Et je précise que 70 000 policiers et gendarmes sont déployés partout en France pour sécuriser à la fois le 14 juillet et la demi-finale de la Coupe du Monde ce soir.
Sans oublier le Tour de France et le 14 juillet, c'est toujours particulier sur le Tour qui reprend aujourd'hui dans le Massif Central.
10e étape, 166 km, ça promet entre Aurillac et le Lioran. Journée épuisante vraiment qui attend les coureurs parce que ce sera sous la chaleur et qu'en plus, il y aura 3800 mètres de dénivelé positif. C'est énorme, c'est digne d'une très grosse étape de montagne. En fait, ça va monter et descendre toute la journée. 7 difficultés répertoriées. Habituellement, en effet, les Français veulent briller le 14 juillet. Mais alors là, ce sera compliqué, nous dit Baptiste Weisstrofer, le chouchou de la première semaine qui n'a pas arrêté d'attaquer.
Vous avez vu l'étape ou quoi? Tranquille, hein. Ouais, je pense qu'il y a un mec, notamment Pogacar, je pense qu'il va plutôt briller. C'est une étape très très dure, celle-là, du 14 juillet. Mais j'espère que des Français vont bien briller. Romain Grégoire ou Martinez, ça peut les intéresser, cette étape-là. Et c'est sûr qu'un 14 juillet, un Français a encore plus de jambes.
La dernière victoire française un 14 juillet, c'était Warren Barguil en 2017. Et alors là, on est au lendemain de la journée de repos à Aurillac, qui n'a pas été reposante du tout pour certaines équipes qui se plaignaient de ne pas avoir la clim à leur hôtel. Il y a des Norvégiens qui ont même passé la nuit à la Belle Étoile.
Quentin Vinet pour le journal 8h09 sur RMC, RMC Story, direction les Champs-Élysées. 14 juillet, jour de défilé, et Apolline de Malherbe est sur place. Bonjour Apolline.
Salut Sébastien, bonjour à tous. Oui, je suis là, je suis avec vous ce matin, mais je suis effectivement depuis le bas des Champs-Élysées, place de la Concorde, où on attend le défilé. Derrière moi, c'est déjà les préparatifs. À 8h30 dans le face-à-face tout à l'heure, mon invité, ce sera la ministre des Armées, Catherine Vautrin, avec évidemment un certain nombre de questions, notamment sur ce défilé, un défilé XXL, tout est plus cette année. Plus de monde, plus de soldats, plus de matériel, plus d'avions. Et pourquoi ? Eh bien parce que la menace également est plus grande, deux fronts en particulier, l'Iran d'un côté, l'Ukraine de l'autre. L'Ukraine, Volodymyr Zelensky, vous le savez, est à Paris depuis hier. Il sera à la tribune aux côtés du président Emmanuel Macron. Je poserai la question donc à Catherine Vautrin de ces menaces, l'expression aussi utilisée par Emmanuel Macron hier, qui disait que l'Europe était prête à se défendre, y compris par le sang, s'il fallait défendre ses propres valeurs, la liberté, la démocratie. Ces questions-là, je les pose à Catherine Vautrin, donc à 8h30 sur RMC.
À tout à l'heure, Apolline, 8h30, le face-à-face donc avec la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en direct depuis la place de la Concorde. La défense, on va justement en parler avec Emmanuel Lechypre.
RMC, Apolline Matin,
le Chypre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Le réarmement de la France, le budget de la défense qui restera comme l'un des actifs majeurs du bilan des 10 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, lorsqu'il devient président de la République en 2017, le pays dépense un peu plus de 32 milliards par an pour ses armées, somme qui aura doublé pour atteindre 64 milliards en 2027. Ça représente à peu près 2% du PIB. Il faut rappeler qu'en 1956, la France dépense encore plus de 6% de sa richesse nationale pour sa défense. Il faut alors financer les guerres coloniales, mais au fil des années, l'effort ne va cesser de diminuer. Sauf dans les années 70, lorsque la France bâtit sa dissuasion nucléaire. Au milieu des années 80, on est à presque 3,5% du PIB d'efforts militaires. Puis survient la chute du mur de Berlin, la fin de la conscription. Le point bas est atteint au début des années 2010, 1,8% seulement de la richesse nationale dépensée pour nous défendre des menaces extérieures. Et puis la suite, on la connaît, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation des conflits dans le monde. Il y en a 65 aujourd'hui, c'est un record depuis l'après-guerre. Les relations qui se détériorent avec l'allié américain sous Donald Trump, il faut donc réarmer le pays.
Et est-ce que l'effort est aujourd'hui suffisant ?
Alors la loi d'actualisation de programmation militaire 2024-2030, adoptée au mois de juillet, injecte 36 milliards d'euros de ressources nouvelles sur la période 2026-2030, 10 000 recrutements de prévus avec trois priorités, les stocks de munitions, les drones et la défense antiaérienne. En termes d'effort, ça reste inférieur à ce que font les pays du nord de l'Europe, Pologne en tête, la Pologne dépense plus de 4% de son PIB pour sa protection. Ça se rapproche par contre de ce que font l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'atout de la France, c'est qu'elle peut compter sur l'industrie de défense la plus complète et la plus puissante d'Europe. Des avions de combat aux sous-marins en passant par les radars et les missiles. Principal défi maintenant de cette industrie de la défense, c'est de produire plus et surtout de produire plus vite.
On termine comme tous les matins avec les chiffres du jour et avec le regain de tension dans le Détroit. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément très bons.
Eh non, tout remonte. Le sans-plomb 95, on est désormais à 1,94 € le litre. On a gagné 4 centimes en une semaine. Le gazole tutoie à nouveau les 2 euros, 1,99 € en moyenne. Le pétrole, on est remonté à presque 85 $ le baril. On a gagné 13 $ en 10 jours. Et puis le gaz, lui, est en hausse de plus de 20% depuis fin juin.
Merci beaucoup Emmanuel Lechypre. Et on vous attend au 32-16. Est-ce une bonne décision investir dans notre défense? Et tiens, comment de façon générale vous voyez nos armées et ce défilé sur les Champs-Élysées? Il y a ce sondage qui sort ce matin. 80% des Français considèrent le défilé militaire comme un symbole important de l'identité nationale. Et alors 9 Français sur 10 ont une image positive de nos armées. Et vous, tiens, qu'en pensez-vous? On vous attend au 32-16. Vous nous écrivez aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui va nous faire rire avec l'actualité à 8h30. Le face-à-face depuis les Champs-Élysées avec Apolline de Malherbe et la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Et juste après, le choix de la rédaction, le brevet pour devenir animateur. Animateur de colo, de centre aéré, en plein boom chez les jeunes. Reportage à suivre avec des stagiaires. Et puis on aura les toutes dernières infos avant la demi-finale. Le choc France-Espagne à 21h à suivre sur RMC. Et puis on vous attend au 32-16. Vos pronostics, vous êtes confiant pour ce soir? On vous attend, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, même quand Arnaud Demange est en vacances, il est avec nous, on vous a gardé le meilleur. Arnaud qui nous souhaite à sa manière un bon 14 juillet.
Merci Apolline, oui, de ce magnifique lancement, c'est très français. Apolline et moi, nous sommes français. Et en France, les amis, on ne fait pas la guerre pour du pétrole ou de l'uranium. Non, en France, la guerre est plus sophistiquée, plus noble. La guerre, elle est aux éditions Grasset. Ah. Après le renvoi de l'éditeur Olivier Nora par Vincent Bolloré, on s'en fout de votre détroit d'Hormuz et du prix de l'essence. Nous, c'est la littérature, notre carburant. C'est la France. La crise du sans-plomb chez nous, c'est quand il n'y a plus de livres chez Plomb. Voilà. On dit merci qui ? Merci Albin et Michel.
Oh non. Arnaud, le conflit au Moyen-Orient, continue.
Oui. Oh là là. Ah, oh, ouais, ouais, quelle histoire, hein. Et hein,
ouais.
Bah ouais,
bah voilà.
Et ouais. Et ouais. Si vous cherchez un expert pour le 9h-10h, Apolline, je suis là. Je suis dispo.
Formidable,
non mais ça va être long jusqu'à juin de trouver des blagues tous les jours sur le même sujet. Et en plus, c'est une guerre, quoi. La vie était plus sympa quand on parlait du renflement brun de Bruno Le Maire. C'est le bon vieux temps. Bon, blague à part, le détroit d'Hormuz était ouvert vendredi. Trump annonçait fièrement « L'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit. Good people. » 3 heures plus tard, l'Iran fermait le détroit.
Voilà.
Good people. Pour protester contre le blocus américain, l'Iran ferme parce que les Américains ferment. Mmh. Voilà. C'est comme quand la CGT bloque une usine qui ferme.
Oui.
Ils arrêtent le patron, ils font « Vous rentrez pas, c'est fermé !»«
Je sais, c'est moi qui ferme.
» Non, c'est nous. Non, c'est moi. Non, c'est nous. Ok, et les ouvriers, c'est eux qui ferment. Non, pas comme ça. Bon, bref, c'est très confus. Même la poste à côté de chez moi, elle est plus souvent ouverte que le détroit d'Hormuz.
Ah oui, c'est
le détroit d'Hormuz, en ce moment, dirait Christian Clavier dans Les Visiteurs. T'es ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé.
Jour. Allons, ça devient
casse-pied. Ouais, Trump, c'est casse-couille, la fripouille. Il a les méthodes médiévales et il panique en face des Sarrasins. C'est le même.
En plein conflit autour du travail du 1er mai, Sophie Binet veut faire du 8 mars un nouveau jour férié.
Oui, la secrétaire générale de la CGT propose un jour férié lors de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, économiquement, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir ça. Je propose de couper la poire en deux. On ferait un jour où seuls les hommes travailleraient.
Ah ouais.
Ouais. Les femmes resteraient à la maison. Ça veut dire que le nombre de DRH qui vont débarquer dans les bureaux en disant « T'oublies pas Jean-Pierre, hein, demain Sylvie elle bosse pas, mais toi t'es là. » Et le gars il va répondre
« Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je... »
Ouais. La cause trans va progresser à une vitesse. En tout cas, c'est l'occasion de se détendre avec un petit queer.
Oh là.
Pardon, un petit quiz.
Ah oui.
Un petit quiz. Ce jour férié existe-t-il ou non? À gagner, Apolline, un jour férié, un jour de congé de plus offert par notre direction. Attention, ce jour de congé existe-t-il? C'est parti. Chaque 5 avril, les Taïwanais vont danser sur les tombes de leurs ancêtres.
Oh non.
Oui, c'est vrai.
Non. Mais non, c'est beau ça.
Les Texans ne vont pas travailler le jour du Cholestérol Day, puisque ce jour-là, ils meurent. Non, c'est
en groupe.
Chaque second dimanche d'août, le Turkménistan célèbre le melon.
Oui.
C'est vrai. Au Liban, on célèbre le 1er juin 2001. À chaque 1er juin, seule journée depuis 50 ans sans bombardement. Le 8 mai et le 11 novembre ne sont pas fériés en Suisse.
C'est vrai.
Ça leur rapprendra à rester neutre.
Voilà. Pour eux, ils en ont perdu
deux,
des jours fériés.
Le 18 mars, c'est férié. C'est la journée du rat où on écrase des rats vivants en sautant.
Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast à tout moment sur RMC et sur rmc.fr. Allez, on retourne au 32-16 à 8h20 sur RMC avec Ali qui nous appelle depuis la Loire. Bonjour Ali.
Bonjour, salut à tous.
Salut Ali. Alors, est-ce que vous y croyez à cette place en finale de Coupe du Monde?
Ah, bien sûr qu'on y croit. Sinon, on ne serait pas autant hypé ce matin.
Qu'est-ce qui est prévu pour ce soir?
Eh bien, ce sera en famille avec madame et les enfants, tranquillement, comme depuis le début de cette Coupe du Monde. Il va falloir répondre à toutes ces questions. C'est quoi un hors-jeu? Pourquoi il y en a un? Mais bon, on fera avec, hein. On fera avec.
Alors, depuis ce matin, au 32-16, on entend des pronostics à 2-0, à 3-1. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Quel est votre prono?
Ah, je mettrais, ouais, je vois bien un petit 3-1. Je pense que on a un duel de stars entre Yamal et Mbappé. La seule différence, c'est qu'il y en a une, c'est une étoile filante et l'autre, c'est l'étoile du berger. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle.
Ça veut dire que vous avez confiance dans notre trio d'attaquants. L'Espagne n'arrivera pas à gripper la machine.
Ouais, pourquoi on va commencer à stresser? On a la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. On a une défense espagnole. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut parce qu'elle n'a pas eu d'adversité offensive. Donc
moi, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Hein. Ils en ont pris qu'un. Hein. Ils ont pris qu'un seul but depuis le début.
Ils n'ont pas joué contre deux grands attaquants non plus. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de jauger leur défense. Mais quand on connaît les joueurs et leur parcours en club, pour moi, ils ne mettraient absolument pas les Espagnols.
En confiance, Ali, au 32-16, on a aussi des messages, Victor, sur le WhatsApp RMC.
Et ce qui est beau avec le WhatsApp RMC, c'est qu'on voyage partout. On avait Michel sur le WhatsApp qui nous écoute depuis la Finlande et c'est là qu'il regardera le match ce soir. On avait aussi un auditeur, tiens, dans le morning qui nous appelait de Miami. Et puis tout le monde y va de son pronostic. Je vais pas vous mentir, j'ai vu aucune victoire de l'Espagne sur le WhatsApp d'RMC. On a quand même Chetano, un pseudo, j'imagine, qui réagit aussi à ce que nous disait Daniel, qui était un peu plus prudent que nous, hein, sur le résultat de ce match, qui nous disait attention quand même à l'Espagne et il nous dit bon, quel rabat-joie ce Daniel Riolo, allez les Bleus. Ben oui, mais c'est aussi l'expérience qui parle, il faut pas non plus être trop confiant.
Ouais. Tout aussi confiante Virginie Fulpin ou pas?
Moi mon vrai problème c'est que j'arrive jamais à faire un pronostic objectif, c'est-à-dire que je ne peux pronostiquer que ce que je veux qui arrive, donc vous devinez ce que je vais vous dire.
On en est tout ça,
je pense que l'équipe de France va gagner, je pense que ce sera pas si simple que ça. 2-1.
Bon, et ben voilà. On espère ne pas vivre surtout les prolongations et les tirs au but.
Non, c'est
pas
difficile.
De match, pas de scénario de l'enfer, s'il vous plaît. Merci et merci à Ali au 32-16. Le face-à-face sur RMC dans un instant. Apolline Desmalherbes depuis les Champs-Élysées qui reçoit la ministre des Armées Catherine Vautrin juste avant le défilé militaire. 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres avec Clément Gouitz.
La forêt de Fontainebleau brûle toujours. Cela fait plus de 24 heures que les 850 pompiers luttent contre ce feu d'origine volontaire. Feu qui progresse et a déjà parcouru plus de 1900 hectares. De nombreux moyens ont été déployés. Canadair, hélicoptères, bombardiers d'eau. Les rotations aériennes ont repris ce matin. Deux personnes ont été interpellées, notamment un jeune de 18 ans en possession d'un briquet. Un 14 juillet hors norme se prépare sur les Champs-Élysées. Le dernier défilé militaire présidé par Emmanuel Macron doit débuter à 10h. Et l'Ukraine sera à l'honneur avec un message clair, afficher le réveil européen en présence d'une trentaine de chefs d'État. Le QR code est bien rétabli pour assister à ce défilé après une première suspension hier par le tribunal administratif. Le Conseil d'État a validé cette nuit cette mesure de sécurité exceptionnelle voulue par la préfecture de police. Emmanuel Macron sera également aujourd'hui à Nice en fin d'après-midi pour les commémorations des 10 ans de l'attentat sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Une cérémonie est prévue à 18h. Et tous derrière les Bleus, ce soir, les hommes de Didier Deschamps défilent l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde à Dallas. Coup d'envoi à 21h, RMC en direct des États-Unis toute la nuit de 20h à 5h du matin. La météo, 26 départements vigilance rouge de l'Île-de-France au Tarn. Encore une journée très chaude, souvent ensoleillée avec toutefois quelques passages nuageux sur une bonne moitié nord. Quelques averses possibles sur le nord-est et la Bretagne, des orages sur le massif central et Pyrénées. Les températures cet après-midi, il fera 25 degrés à Cherbourg, 28 au Havre, 36 à Paris et 39 à Lyon.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz dans un instant sur RMC et BFM TV. Le face-à-face Apolline de Malherbe en direct depuis les Champs-Élysées ce matin avant le défilé du 14 juillet avec son invité, la ministre des Armées, Catherine Vautrin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Apolline
Catherine
de
Vautrin, vous êtes ministre des armées et des anciens combattants. Merci de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV, en direct évidemment du bas des Champs-Élysées, juste avant le défilé du 14 juillet dernier, 14 juillet d'Emmanuel Macron. Un défilé XXL, et vous insistez beaucoup là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la menace aujourd'hui, elle est aussi XXL ?
C'est vraiment le défilé du réveil stratégique européen. C'est tellement vrai que vous verrez tout à l'heure 35 chefs d'État, de gouvernement qui sont à Paris aujourd'hui, après une réunion de la coalition des volontaires hier. C'est donc vraiment la démonstration de la mobilisation européenne, notamment aux côtés de l'Ukraine.
J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, le réveil stratégique. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on était endormis ?
Nous n'étions pas endormis, mais nous sommes encore plus rassemblés. La réunion d'hier a montré la volonté de continuer dans la suite logique du G7 d'Évian, de la déclaration d'Ankara la semaine dernière, hier réunion de la coalition des volontaires, et on voit cette Union européenne prête à accompagner l'Ukraine dans une recherche qui est évidemment une recherche de paix. Et cette recherche de paix, elle s'organise avec bien évidemment la coalition des volontaires et une nouvelle coalition proposée par les Ukrainiens hier, qui est la coalition anti-balistique.
Et Volodymyr Zelensky d'ailleurs sera présent ce matin. Cette expression du président de la République hier, Emmanuel Macron, qui dit « l'Europe est en train de devenir une puissance », le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre toujours et au prix du sang s'il le faut, au prix du sang s'il le faut.
Mais vous savez ce que dit le président de la République, c'est que l'Europe, 450 millions d'habitants, c'est un continent et l'Europe rassemblée est en capacité de parler avec les pays continents, et je pense à la Russie, je peux penser à la Chine, je peux penser aux États-Unis. Après, évidemment, et c'est l'hommage que nous devons rendre avec tous les Français à nos militaires aujourd'hui, les militaires sont engagés jusqu'au sacrifice ultime. Je suis ministre des armées depuis 9 mois. J'ai présidé 4 hommages funèbres. C'est dire si effectivement nos soldats sont engagés. Et il est logique que ce 14 juillet soit évidemment le lien armée-nation, mais toute la reconnaissance de la nation pour nos armées.
Vous avez d'ailleurs reçu hier avec Emmanuel Macron des familles endeuillées. Vous avez vu les familles de ces soldats, soit blessés, soit effectivement morts pour la France. Ce réveil stratégique dont vous nous parlez, c'est face à quelle menace ? La Russie d'abord ?
Mais la Russie est bien sûr une menace pour l'Ukraine. Et notre objectif,
c'est... Pour l'Ukraine ou pour la France ?
D'abord, en premier lieu, pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et donc, quelque part, ce qui se passe en Ukraine joue la sécurité du continent européen. Et la mobilisation du continent européen, c'est évidemment la paix en Ukraine et la paix sur le continent. Et c'est cela que nous jouons et c'est le sens aujourd'hui de l'implication de la France et de tous les pays européens.
Est-ce qu'on est en tête de cette coalition ? C'est-à-dire qu'au fond, on parle toujours de cette coalition, mais nous sommes les seuls à faire un défilé d'abord de cette ampleur. Depuis toujours, c'est une tradition très française. C'est aussi une forme de dissuasion, c'est-à-dire montrer de quoi on est capable, montrer notre puissance, faire une démonstration de force.
Comme vous le savez, la France, depuis maintenant plus de 60 ans, a toujours fait le choix de la souveraineté pour sa défense et pour ses armées. Avec une souveraineté qui repose sur deux piliers, la dissuasion, nous sommes les seuls en Europe à avoir une dissuasion opérationnelle, qu'elle soit aéroportée ou qu'elle soit navale, et puis bien évidemment, une armée conventionnelle. Et c'est tout le sens, en fait, de cet effort et de cette volonté du lien armée-nation que ce 14 juillet et ce défilé qui fait partie intégrante de la stratégie française. Parallèlement à ça, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays européens voient la nécessité d'être capables d'interopérer, d'agir ensemble. Et c'est ce que nous faisons avec la coalition des volontaires hier, avec finalement maintenant la coalition anti-balistique avec les Ukrainiens. Donc ce sont les Européens mobilisés pour la paix.
Mais on peut continuer à œuvrer seul. C'est-à-dire que, au fond, la question qu'on se pose aussi ce matin, c'est que est-ce que c'est encore un défilé français ou est-ce que c'est un défilé européen ?
Vous le savez, la défense est une compétence de chacun des États. Ensuite, en matière de capacité, il est intéressant à la fois d'avoir des réponses souveraines, mais d'être interopérable. Comment voulez-vous être ensemble dans une opération de défense si vous n'êtes pas interopérable? Et c'est bien pour cela que nous travaillons dans cet esprit avec la coalition antibalistique, avec des avions qui peuvent travailler ensemble, avec des armées qui s'entraînent ensemble. Quand nous sommes nation cadre pour l'OTAN, par exemple, en Roumanie, ou que nous sommes aux côtés des Britanniques en Estonie, typiquement, c'est l'exemple de la capacité des pays européens à être interopérables. Et nous aurons, à l'automne prochain, en Pologne, un très grand exercice qui, là encore, sera un exercice commun, comme nous avons eu au printemps dernier, dans le cadre de l'exercice Orion, des pays qui sont venus participer à Orion, je pense aux Belges, je pense aux Espagnols, je pense aux Grecs, tous sont venus. Orion est une opération qui a duré pratiquement 6 mois, et nous avons eu des armées européennes qui sont venues à nos côtés pour s'entraîner.
Et je vais en venir évidemment aussi à la question des réservistes, à la question du service militaire volontaire que vous avez lancé, mais encore une question sur ce lien avec les autres pays, et sur la question de la démocratie. Au fond, lorsqu'on a vu par exemple Viktor Orban à un moment qui n'avait pas les mêmes positions que les autres pays européens vis-à-vis de la Russie, dont vous nous redites ce matin qu'elle est aujourd'hui quand même l'une des menaces importantes, pas seulement sur l'Ukraine mais sur le reste de l'Europe, quand on sait que dans l'année qui vient, c'est donc le dernier, je le disais, défilé militaire présidé par Emmanuel Macron, parce qu'il y aura des élections dans l'année qui vient, il y aura un autre ou une autre président qui sera à cette tribune l'an prochain. Vous parlez souvent, pas forcément seulement vous, mais le camp présidentiel, du risque des extrêmes. Peut-être que ce sera l'extrême droite, l'extrême gauche qui sera au pouvoir à partir de mai prochain. Toute cette armée, est-ce qu'elle aura la même vocation?
Vous savez, nous allons avoir un débat qui va être le débat de l'élection présidentielle. Ce débat de l'élection présidentielle, à mes yeux, aura un élément clé, la souveraineté. Quelle souveraineté les Français veulent-ils? Souveraineté en matière de défense, souveraineté économique, souveraineté, bien évidemment, en matière environnementale, en matière financière. Et ça sera typiquement tout ce que nous devrons aborder.
Mais ce sera un outil exceptionnel, une arme exceptionnelle entre les mains du
futur ou de la future présidente. Absolument majeur à discuter pendant la campagne pour que les Français et les Français fassent un choix le plus éclairé possible. Après, si nous regardons l'histoire de notre pays, depuis 60 ans, la souveraineté en matière de défense a toujours été suivie, quel qu'ait été l'exécutif. Nous avons connu des alternances en France et systématiquement, jusqu'à maintenant, la dissuasion, par exemple, a toujours été suivie telle qu'elle avait été mise en place par le général de Gaulle. Ce qui veut dire qu'elle a évidemment évolué au fur et à mesure des années, mais le concept même de cette indépendance et de cette souveraineté n'a jamais été remis en cause. Et c'est important que nous puissions le dire aux Français, l'expliquer dans vos choix. Il y a la notion de la souveraineté, du respect de la souveraineté de notre pays.
Il y a la question des politiques et puis il y a la question des Français. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous des deux appels que vous leur avez lancés? La question des réservistes et la question de ce service militaire volontaire.
Alors, si nous commençons par la réserve, nous avions en 2025 47 000 réservistes. Au moment où je vous parle, nous sommes à 51 000 pour un objectif fin 26 qui est un objectif de 52 000.
Donc vous
voyez
presque.
Que nous y sommes presque. Et je vois une importance tout à fait intéressante des Français qui prennent conscience de la nécessité de s'engager pour le pays. Le service national, là nous avons un objectif de 3000 jeunes. Nous aurons ces 3000 jeunes pour nos trois armées, c'est-à-dire armée de terre, armée de l'air et marine. Il faut encore continuer un peu l'effort pour la marine. Nous avons quasi...
Donc vous lancez un appel ce matin, ceux qui veulent s'engager.
Il y a encore de la place, ça devient compté pour l'armée de terre et pour l'armée de l'air. Il y a encore un peu de place dans la marine, mais dépêchez-vous quand même. Mais on sera heureux de vous recevoir, d'échanger avec vous, parce que si d'aventure il n'y avait pas de place cette année, il y en aura pour l'année prochaine.
Catherine Vautrin, ministre des Armées, ça veut dire effectivement des hommes, des femmes, des engagés, mais ça veut aussi dire des munitions, des armes, des chars, du matériel. Il y a eu évidemment cet effort en termes de budget. Est-ce qu'il y a un effort aussi en termes de souveraineté? C'est-à-dire que pendant longtemps, on se disait, est-ce qu'on sera dépendant des pièces détachées, de la fabrication à l'extérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'être indépendant?
Vous avez raison, c'est une question fondamentale. On le rappelle, l'actualisation de la loi de programmation militaire, 36 milliards votés par les deux assemblées, c'est absolument majeur. 36 milliards entre 26 et 30. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, à chaque fois que c'est possible, nous mettons en avant la souveraineté. Deux exemples récents, le lance-roquettes unitaire, devait avoir un successeur. Ce successeur sera français. C'est un groupement d'entreprises françaises. Deuxième élément, depuis les années 90, on ne produisait plus de poudre en France. Nous venons de signer un accord avec FN Herstal, qui est une entreprise belge, et nous allons en France reproduire.
Entreprise belge ?
Entreprise belge. C'est un groupement dans lequel il y a.
Mais qui fabriquera en France ?
C'est une entreprise, un groupement d'entreprises belges et françaises qui fabriqueront en France. Et pour la première fois, on refera des munitions petit calibre, 5,6 mm. On n'en faisait plus depuis les années 90. Donc vous voyez qu'il y a là vraiment une volonté de groupement.
Ça va créer des emplois ?
Ça crée 20 emplois dans la Drôme.
20 emplois dans la Drôme. La question aussi, c'est pourquoi faire ? Il y a deux fronts. Je vais parler de l'Ukraine, effectivement, dans un instant, même si on l'a déjà évoqué. Mais il y a aussi l'Iran. Troisième nuit de frappe massive, à nouveau, entre les États-Unis et l'Iran cette nuit. Est-ce qu'on peut dire que la guerre a repris ?
Alors, je ne qualifierai pas le fait que la guerre a repris. Je dirais que nous avons assisté la semaine dernière aux hommages à Khamenei. On a vu que derrière, il y avait eu déjà des frappes, effectivement. Nous, notre volonté, c'est de rechercher, comme vous le savez, l'accord de paix. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour accompagner des pays qui sont attaqués, avec lesquels nous avons des accords de défense, c'est ce que nous faisons depuis mars dernier. Nous sommes prêts, le président de la République l'a dit, à déminer Hormuz. Nous avions reçu le sultan d'Oman.
On est prêts, mais on n'y va pas. Mais
on ne peut y aller qu'avec l'accord et à la demande des pays concernés, et notamment avec Oman, puisque c'est Oman qui est l'une des deux rives du détroit d'Hormuz, comme chacun, je crois, le sait maintenant. Donc nous, notre volonté, c'est toujours de tout faire, d'une part pour évidemment le cessez-le-feu, et d'autre part pour la liberté de navigation. La liberté de navigation est pour nous un enjeu majeur.
L'Iran qui dit que le détroit d'Hormuz est, au moment où on se parle, fermé.
Mais aujourd'hui...
L'est-il ou non ?
Alors, écoutez, je ne suis, par définition, je suis place de la Concorde, donc je ne sais pas vous dire...
J'imagine que vous avez des informations.
Je ne sais pas vous dire s'il est ouvert ou fermé, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que la position française, c'est d'être en capacité, comme nous le sommes depuis début mars, prêt à aider pour la paix.
Le Charles de Gaulle, il est revenu à son port d'attache à Toulon. Est-ce qu'il a vocation à repartir
au plus près de la zone ? Le Charles de Gaulle a fait 166 jours de mer, une mission exceptionnelle de la Baltique au détroit d'Hormuz. Et aujourd'hui, il est effectivement rentré à Toulon. Et je voudrais saluer les marins et l'engagement qui a été le leur pendant 166 jours.
Je vous repose la question. A-t-il vocation à repartir ?
Aujourd'hui, c'est une décision que seul le président de la République prendra ou pas. Ce n'est pas à l'heure du jour au moment où nous parlons.
Ce n'est pas à l'heure du jour, mais si on a besoin de nous pour la coalition, en tout cas, vous dites
que nous serons prêts. Nous avons d'autres moyens pour la coalition. Comme vous le savez, nous avons des frégates, nous avons, comme je viens de le dire, des démineurs. Nous avons ce dont nous avons besoin. Nous avons également des avions. Comme vous le savez, nous avons des rafales stationnées, notamment aux Émirats Arabes Unis, prêts à intervenir à la demande des pays concernés.
Catherine Vautrin, Emmanuel Macron qui a redit hier cette phrase, être libre, être craint, être puissant. Non par plaisir, mais par nécessité. Cette question de la menace russe, le fait de se montrer aux côtés de Volodymyr Zelensky, de l'inviter aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu Xenia Fedorova, dont Jean-Noël Barrot dit qu'elle est, je cite, la propagandiste du Kremlin. Elle tient tribune sur CNews et dans le JDD, et elle dit « Jusqu'où veut-on entraîner la France dans cette guerre, si l'on veut que ce conflit devienne aussi le sien, qu'on le dise clairement aux Français ?»
Nous ne sommes pas là pour entraîner la France dans la guerre, nous sommes là pour la paix. C'est toute la différence. La Russie a agressé l'Ukraine en 22. Depuis 22, les Ukrainiens subissent une guerre. Ils ont demandé aux Européens de les aider à se défendre, d'où les accompagnements en termes de formation, en termes de cessation d'armement, en termes d'organisation de coalition. Notre volonté, comme toujours, c'est la recherche de la paix et c'est l'accompagnement dans la défense. Nous n'agressons personne, nous défendons des agressés.
Alors, le Kremlin qui répond que cette coalition des volontaires, c'est la coalition des belliqueux.
Mais qui est belliqueux ? Qui est allé agresser l'Ukraine ? C'est bien la Russie.
C'est une manière, là encore, de jouer le rapport de force de la part du Kremlin ?
Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est absolument fondamental, c'est notre capacité à montrer combien l'Europe est unie pour défendre sa sécurité, parce que aujourd'hui c'est l'Ukraine. Toute la question qui peut se poser, c'est qui demain. Et donc, quand nous défendons l'Ukraine, nous défendons la sécurité européenne. C'est ça le sens de l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine.
Catherine Vautrin, je voudrais aussi qu'on parle des incendies, parce que l'armée n'est pas en reste. Elle aide, elle soutient les secours. 2000 hectares détruits par les flammes cette nuit en forêt de Fontainebleau. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, notamment, je crois qu'il y a un accompagnement par les soldats des pompiers. pompiers et la question aussi du commandement des pompiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors, et est-ce que vous
merci
vous êtes engagé?
Deux exemples très concrets. C'est un dispositif dans le cadre de la mission Sentinelle qui s'appelle Héphaïstos, qui est entre autres basé au 7e risque à côté de Toulon. Et l'objectif, c'est d'apporter des moyens des armées, par exemple en termes de génie, quand il faut prendre des outils du génie pour ouvrir une route, nous savons faire. Quand un hélicoptère peut arriver sur zone avec évidemment des militaires entraînés capables de descendre de cet hélicoptère, aller sauver des personnes qu'il faut sortir de ces terrains menacés. Tout ça, nous savons faire et nous le faisons aux côtés des services départementaux d'incendie et de secours. Pour Fontainebleau, la brigade des sapeurs marins pompiers de Marseille a fait venir des personnes qui sont en fait des personnes qui gèrent les sinistres à Marseille, qui sont venues, donc des encadrants, qui sont venus en fait aider Fontainebleau parce qu'on n'a pas l'habitude en Seine-et-Marne de gérer ce type de feu. Donc ce sont des militaires, les sapeurs marins pompiers de Marseille qui sont venus à Fontainebleau pour
et
aider.
Et qui y sont en ce moment même
au moment où je vous parle, qui y sont.
Ils aident au commandement, ils aident à la coordination.
Ils aident à la stratégie.
Ils aident à la stratégie.
Aux côtés, bien évidemment, de tous les moyens de défense de sécurité intérieure.
Ils ont vocation à rester
Vous savez, dans ce genre d'opération, tout le sujet, c'est évidemment de maîtriser le feu. Et je voudrais rendre hommage à toutes les équipes de tous les services départementaux d'incendie et de secours. Nous savons que c'est une année exceptionnellement difficile eu égard à cette troisième vague de chaleur. Nous avons une sécheresse terrible et une fois encore repasser grâce à vous ce message de prévention. Quand on voit le nombre de feux, ils sont pratiquement tous d'origine humaine. Donc chacun d'entre nous doit être particulièrement vigilant. Le meilleur feu, c'est celui qui ne démarre pas.
Sentinelle aux côtés donc des pompiers, Sentinelle aussi dans la lutte contre le terrorisme. On l'oublie presque, mais est-ce que aujourd'hui la menace terroriste est toujours très élevée en France?
Mais nous avons toujours une menace, c'est la raison pour laquelle évidemment les dispositifs Sentinelle sont toujours là, aux côtés des forces de sécurité intérieure. C'est ce lien entre l'armée et le ministère de l'Intérieur. Et nous avons en permanence des soldats qui effectuent des missions Sentinelle. Et vous imaginez qu'une journée comme aujourd'hui, nous avons effectivement, bien sûr,
un très gros dispositif de sécurité,
tout à fait.
L'Iran, est-ce que ça représente une menace, y compris sur notre sol?
Vous savez, je crois que les menaces sont plurielles. Nos services travaillent, et je voudrais là encore rendre hommage à des militaires dont on parle moins. Je pense à la DGSE, par exemple, à la direction également du renseignement militaire. Leurs travaux sont aussi secrets qu'efficaces et c'est eux qui nous accompagnent au quotidien et c'est eux qui veillent sur la sécurité du pays. Il est important de leur rendre hommage également.
Un dernier mot sur ce double 14 juillet, parce que c'est le 14 juillet évidemment traditionnel avec le défilé, et c'est ce soir la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est presque les mêmes valeurs, c'est-à-dire que c'est le drapeau, la Marseillaise, la fierté d'être français, la fierté aussi de notre équipe qu'on a dû défendre
mais
face aux attaques, y compris de l'ancien Premier ministre espagnol,
sûr,
de cette sénatrice paraguayenne. Qu'est-ce que ça dit aussi de la France?
Ça dit que la France est belle quand elle est rassemblée et elle gagne quand elle met tous ses talents en commun. C'est ce que nous a montré l'équipe de France depuis le début de ce mondial. Et évidemment, on est derrière eux, avec eux, et on les encourage.
Merci beaucoup, Madame
Merci
la Ministre, d'avoir
Merci
répondu
beaucoup.
À mes questions. Catherine Vautrin, ministre de la Défense, ministre des Armées sur RMC BFM TV.
Merci Apolline de Malherbe en direct depuis la place de la Concorde, les Champs-Élysées, avant le défilé du 14 juillet. Il est 8h46. Dans un instant, les dernières infos de Dallas avant France-Espagne ce soir, 21h, demi-finale de Coupe du Monde. Vous suivrez ça sur RMC. Et puis le choix de la rédaction ce matin sur le BAFA, le brevet pour devenir animateur de colo, de centre de loisirs. Bien, ce BAFA séduit à nouveau les jeunes. Vous allez les entendre. On va tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC, Apolline Matin continue avec le mondial d'Antoine dans un instant avec Antoine Salva. Salut Antoine.
Salut, bonjour à tous.
Les dernières infos de la Coupe du Monde avant la demi-finale des Bleus ce soir 21h, le compte à rebours évidemment est lancé avant ce France-Espagne que vous suivrez bien sûr sur RMC. Mais avant cela, le choix de la rédaction ce matin avec Amélie Courté. Bonjour Amélie.
Bonjour à tous.
Le choix de la rédaction sur ces animateurs
de centres de loisirs ou de colonies de vacances qui sont indispensables cet été. On sait qu'il y avait eu un creux pendant le Covid, mais le BAFA, le brevet pour devenir animateur, connaît un regain depuis 2023. En 3 ans, le nombre de stagiaires a même doublé chez certains organismes de formation grâce à des diplômés de plus en plus jeunes, hein, Amélie.
Oui, ils ont 16 ans, pas encore le bac, mais déjà leur BAFA en poche, car depuis 2022, l'âge minimum requis pour le passer a été abaissé de 17 à 16 ans. Et c'est ce qui explique en grande partie la hausse du nombre de diplômés du BAFA ces dernières années.
Alors, qu'est-ce qui pousse ces adolescents à devenir animateurs ?
Eh bien, je suis allée leur poser la question. Je me suis rendue dans un centre de loisirs à Palaiso, dans l'Essonne. Dernière semaine de formation du BAFA pour la quinzaine de stagiaires entre 16 et 24 ans devant moi. Ils enchaînent les exercices pratiques.
Mettez-vous tous deux par deux, je vais voir un banc devant moi. C'est bon ? On y va. Du coup, là, on fait un grand jeu. Comme il fait beau, on s'est dit qu'on allait faire à l'extérieur.
Et où mon animateur ?
Donc Alexis, il vous montre le parcours.
J'ai passé le BAFA plutôt pour gagner un peu d'argent et travail, job d'été et tout.
Déjà, c'est parce que j'ai fait de nombreuses colonies.
J'ai un peu suivi le chemin de frères et sœurs parce qu'ils ont passé le BAFA comme moi.
3, 2...
Bah, j'aime mes enfants, j'aime être avec eux.
Quand je les vois s'amuser, ça me fait plaisir.
En fait, on n'a pas seulement le rôle d'occuper l'enfant pendant la journée, c'est vraiment aussi un rôle bah, en fait, de lui transmettre des valeurs.
On va leur apprendre la politesse, leur donner un petit peu de compétitivité, mais que ça s'arrête après le jeu.
Même un truc tout bête quand on est enfant, c'est les animateurs qui les apprennent à découper en fait à 3 ans. Je les accompagne sur un petit bout de chemin quoi.
Tu peux bien courir.
Alors on a entendu ceux qui sont les plus motivés, mais tous ne le sont pas.
Ouais, à l'appel, ils répondent présents, mais c'est parfois seulement la volonté de leurs parents, constate Jean-Loup Desloges, directeur de l'Arrowhaven de l'Académie de Versailles, association qui forme au BAFA, car le BAFA est devenu un vrai plus dans le dossier Parcoursup et résultats.
On a aussi de plus en plus d'abandons. Malheureusement, on a beaucoup d'inscrits, mais on a beaucoup de jeunes qui, au bout de la première journée, décident d'arrêter parce que c'est les parents qui les ont poussés et pas eux qui ont choisi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit un peu plus. Alors, c'est pas encore une grande quantité, heureusement, mais c'est des choses qu'on voit un peu plus qu'avant.
Et puis, malgré tout, on manque toujours, en réalité, d'animateurs en France.
Oui, 70% des structures et associations interrogées par l'Exopé, syndicat dans l'animation, rapportent des difficultés de recrutement dans son dernier baromètre. Il y a quand même du mieux. Plusieurs responsables de centres de loisirs, de colonies de vacances avec qui j'ai échangé se réjouissent de recevoir plus de candidatures. Le problème, c'est que parmi ces candidats, il y a de plus en plus d'animateurs diplômés du BAFA, oui, mais mineurs. Une vraie contrainte, hein, juge François Petit, responsable de colonies de vacances.
On a eu les animateurs qu'on souhaitait, qu'on voulait. Maintenant, on a surtout refuser tout animateur mineur parce que ce n'est pas compatible. Ils peuvent travailler 8 heures par jour. Donc, journée commencée, vous faites 8 plus 8, ça fait 16. À 16 heures, ils s'arrêtent de travailler. Moi, j'ai encore des enfants parce que les colonies de vacances, on les a en 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la nuit, s'il y a un enfant qui fait un cauchemar, il ne pourrait pas travailler. Là, c'est BAFA à 16 ans qui pose le petit problème. Voilà, c'est juste une incohérence en fait législative, mais que nous, on ne peut pas subir de cette manière-là.
Et l'autre obstacle qui persiste lors du recrutement, c'est la rémunération, un peu plus de 50 euros brut par jour minimum. Même si elle a été doublée hein, depuis un an, elle continue d'être trop juste selon les candidats face aux heures passées sans compter auprès des enfants.
Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa.
Amélie Courtet pour le choix de la rédac. Amélie, animatrice plus jeune ou pas ?
Non, pas du tout.
Il y a des BAFA ici ou pas ? Antoine Salva, BAFA ou pas ?
Non, pas du tout.
Ah bah voilà, il n'y en a pas. Ah, moi non plus.
Mais j'ai adoré mes animateurs.
Mais j'ai fait des colos. Merci beaucoup Amélie. Allez, direction Dallas. Et c'est pas la colo.
RMC,
le mondial d'Antoine.
Quoique, il y a parfois une ambiance de colo chez nos Bleus. Antoine Salva pour les dernières infos avant le choc ce soir entre la France et l'Espagne.
Une demi-finale qui sent l'aveu de tous. La finale avant l'heure, hein, tant les deux équipes semblent au-dessus de la mêlée dans cette Coupe du Monde. Les Bleus ont maîtrisé la phase de poule, mené une bataille tant physique que psychologique face au Paraguay avant de se qualifier sans trembler devant le Maroc. L'Espagne, c'est donc enfin un gros morceau sur le chemin des hommes de Didier Deschamps.
On va pas se satisfaire d'être dans le dernier carré, même si c'est beaucoup de fierté et tout ce qu'on veut. On est compétiteurs, donc on va tout faire pour que cette soirée se passe très bien pour nous.
Battu lors de leur dernière confrontation en demi de l'Euro il y a 2 ans, puis dominé dans les grandes largeurs en Ligue des Nations l'an dernier face à un grand Lamine Yamal, les Bleus ont bien changé. Enfin, leur force offensive notamment, qui ne laisse pas insensible notre confrère espagnol Roger Saperas.
La France impressionne. Je pense que c'est une sélection qui a plus de profondeur de banc que l'Espagne. Et quand tu énumères l'attaque de la France, je pense que ça fait peur, footballistiquement parlant, à n'importe quelle équipe. Cet arsenal offensif français, aucune équipe au monde n'en a l'équivalent. Et l'Espagne encore moins que les autres.
Et oui, avec 16 buts inscrits, la France possède la meilleure attaque de ce mondial.
Et de son côté, l'Espagne, qui a connu un premier accro, mais sans conséquence en ouverture face au Cap-Vert, a depuis passé la vitesse supérieure.
Oui, il a fallu attendre les quarts de finale pour qu'elle encaisse face à la Belgique son premier but après 650 minutes d'invincibilité en phase finale de Coupe du Monde. L'Aurora de Lamine Yamal, qui fêtait hier ses 19 ans, est donc plutôt sûr de ses forces.
Évidemment, c'est difficile comme tous les titres en sélection, mais oui, nous nous voyons tous champions du monde. C'est arrivé en 2010, donc pourquoi pas.
Notez que ce soir, la défense espagnole championne d'Europe en titre sera composée d'un Français, notamment Aymeric Laporte, 32 ans, formé à Bilbao, passé par Manchester City, avant de revenir au Pays Basque. Il était boudé par Didier Deschamps, puis adopté par les Ibères en 2021. Du haut de ses 52 sélections, il n'est pas innocent à la bonne santé de l'arrière-garde espagnole, meilleur du tournoi.
Alors justement, il est beaucoup question de nationalité en ce moment, et les joueurs de la Roja ont vivement critiqué les propos racistes de l'ancien Premier ministre espagnol.
Oui, et notamment Borja Iglesias, actuellement au Mondial. Il s'est dit attristé par la tribune de Mariano Rajoy, qualifiant notre sélection de très haut niveau, mais sans Français. Pour l'attaquant de 33 ans, la France est si riche à bien des égards grâce à la diversité de ses habitants. Bon, quoi qu'il en soit, l'ancien chef de file de la droite conservatrice soutiendra peut-être plus sa sélection que certains madrilènes ce soir. Car oui, de nombreux fans du Real, vexés de ne voir aucun de leurs joueurs sélectionnés avec l'Espagne, pourraient pousser derrière les Bleus et Kylian Mbappé, qui en aparté frustre de nombreux supporters merengués au regard de ses performances XXL dans ce mondial.
Antoine, ce soir, ce sont les joueurs qui vont devoir faire attention à leurs propos, qu'ils aient la bouche cachée ou pas.
Oui, tout à fait, puisque Ivan Barton, l'arbitre salvadorien au sifflet ce soir, s'est fait connaître pour avoir été le premier à appliquer une nouvelle règle. Il a exclu en début de mondial un Paraguayen qui avait caché sa bouche avec sa main en s'adressant à un adversaire turc. Et puis, pour être complet, côté protocole, notez que la demande de minutes de silence à l'occasion du triste anniversaire des 10 ans des attentats de Nice a été accepté par la FIFA. Avant le coup d'envoi, Dallas rendra bien hommage aux 86 victimes.
21h à Nice, il sera 14h dans le Texas, et cela nous rappelle qu'il s'agit là du tout premier match des Bleus hors de la côte Est des États-Unis.
Et oui, bienvenue à Dallas, où une chaleur étouffante règne sur la ville. 40 degrés de moyenne à la mi-journée attendue. Fort heureusement, le stade situé à Arlington, dans la périphérie, est couvert et climatisé. Alors après être resté à l'est, à Boston, Philadelphie et New York, les Bleus cumulent 4500 km et 14 heures de vol après ce voyage au Texas. Les Espagnols, qui ont visité le continent en long et en large, de la Californie à la Géorgie en passant par le Mexique, ont eux parcouru plus de 21 000 km et passé trois fois plus de temps en vol que nos Français, en espérant que cette énorme différence pèse de tout son poids dans le verdict de ce choc.
À 21h donc, le coup d'envoi de ce France-Espagne sur RMC, bien sûr, en intégralité avec Jean-Louis Tour, avec toutes les équipes RMC Sport, RMC Radio officielle de cette Coupe du Monde, en direct depuis les États-Unis. Ce soir de 20h à 5h du matin, vous ne manquerez rien. L'avant-match des 18h depuis Paris, l'after depuis New York ensuite, avec Gilbert Bribois.